Shalom Alechem
à toutes et à tous. Nous commençons cette semaine la lecture du second livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Nous venons de clôturer la lecture du livre de la Genèse, le livre de Bereshit, qui est appelé par nos sages le livre des pères, le livre des patriarches, le livre des parents. Et nous débutons la lecture du livre des enfants, le livre de Shemot, dans lequel, va être raconté en détail l'histoire des enfants d'Israël, des Béné Israël, c'est-à-dire fils de Jacob. La paracha précédente se termine avec la mort de Jacob, la mort aussi de Joseph. Mais maintenant, nous allons parler des Béné Israël, les fils de Yaakov, les fils d'Israël. Et évidemment, lorsque nous abordons le sujet de l'exil en Égypte, parce qu'avant de parler de sortie d'Égypte, il y a bien entendu l'esclavage en Égypte. L'exil en Égypte. Évidemment, il y a plusieurs questions qui se posent. L'exil en Égypte est composé d'une période, on va dire, d'un âge d'or. C'est la période, juste le moment où viennent les 70 âmes, les 70 personnes avec Yaakov, qui sont accueillies par Yosef, vice-roi d'Égypte. La famille de Joseph, la famille de Yosef, est donc non seulement accueillie, mais aussi entretenue par la maison royale. Par Yosef, par Pharaon, et il y a toute une période donc qui va jusqu'à la mort de Yosef. La mort de Yosef, c'est 70 ans après que soit arrivée la famille de Yosef en terre d'Égypte. Donc déjà nous avons 70 ans, non seulement de tranquillité, mais même de privilège. Puis, nous disent nos Chachamim que les persécutions n'auront véritablement débuté qu'après la mort du dernier des 12 Shevatim, des 12 frères. Ce qui laisse encore une certaine trêve. C'est-à-dire que l'exil dont on parle, l'exil dont il est énormément question, ces fameux 4 siècles qui avaient été d'exil, qui avaient été prédits à Abraham, lors du Berit Ben Abetarim, lors de l'alliance des morceaux, ces 4 siècles, eh bien, nous le savons, ils ont commencé à être décomptés à partir de la naissance de Yitzhak, date à partir de laquelle « Ger yihyeh zara'acha, étrangère sera ta descendance, be'eretz lolahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Va'avadum ve'innu otam, ils les asserviront et les feront souffrir. » durant 400 ans. Et donc, ce décompte débute à partir du moment où Abraham va avoir une descendance, à partir de Yitzhak. Et là, Abraham et Yitzhak et Yaakov seront en déplacement presque permanent, de manière à être à assumer cette prédiction d'être étranger. Et la période égyptienne aura duré, elle, 210 ans sur les 400, ce qui est déjà presque la moitié seulement. De ces 210 ans, eh bien, il y a toute une période, comme nous l'avons dit, qui était une période, au contraire, un âge d'or, une opulence, une période de privilège pour les Béné Israël, pour les enfants d'Israël. Donc nous voyons très bien que l'exil prédit par Dieu à Abraham n'est pas constant, n'est pas égal, n'est pas d'intensité égale, n'est pas de la même nature. Cette lecture de la période d'exil de la descendance d'Abraham, telle que nous la présentons très brièvement maintenant, en fait, nous permet d'éclairer une zone d'ombre assez, une question assez pesante, une question qui est très délicate. On nous pose une question très délicate. Nous savons que, en tout cas pour une partie de cette période égyptienne, les Béné Israël, les fils d'Israël, auront été persécutés, asservis, torturés. On leur aura volé leur dignité, leurs enfants. On aura exécuté des enfants de manière sommaire. On aura utilisé des bébés dans des constructions. On aura fait faire des travaux inutiles, des travaux qui vont, des travaux de construction sur des terrains qui ne sont pas adaptés, et donc les constructions vont systématiquement se détruire, se démolir, ne pas tenir. C'est-à-dire que les esclaves n'auront même pas la satisfaction d'avoir été les acteurs, ou en tout cas d'avoir participé à une construction, d'avoir participé, d'avoir au moins cette fierté d'avoir érigé des monuments en Égypte. Non, tout ce qu'ils ont construit était dans un terrain qui ne permettait pas de faire tenir les choses. Et donc il y a eu des persécutions. Les hommes faisaient des travaux de femmes, les femmes des travaux d'hommes, tout ça juste pour déstabiliser, pour ne pas que, même dans le cadre du travail, pour que personne ne soit dans sa zone de confort, pour que en permanence l'esprit soit perturbé, soit préoccupé, en tout cas qu'il ne soit pas en mesure de se rebeller, qu'il soit totalement soumis à la force égyptienne. Donc nous savons qu'il y a eu ces périodes-là, et ce qu'il est dit très difficile de comprendre, c'est comment de telles choses peuvent-elles être attribuées à une prédiction qui a été dite à Abraham, qui plus est, qui semble être le fait de la faute d'Abraham. Puisque juste avant l'alliance des morceaux, le Berit Ben Abetarim, nous relevons chez Abraham un moment qui semble être un moment de doute, un instant d'incertitude. Lorsque Abraham va dire « Bama eda ki irachena », comment saurais-je que véritablement je vais hériter de la terre d'Israël, de la terre de Canaan ? Ce « Bama eda », cette hésitation minime de la part d'Abraham, au lieu de nos chachamim, a donné naissance à une phrase terrible. « Yadoa teda », sache que. Et sache que quoi ? Sache que ta descendance sera asservi, exilé pendant 4 siècles. C'est-à-dire que les Chachamim lisent dans cette prédiction une réponse à l'hésitation momentanée, éclair de Abraham. Quelque part, c'est une punition. Depuis quand la Torah met-elle en avant une punition des enfants par la faute des parents ? C'est un principe totalement contraire, à nombre de versets. Chacun assume ses responsabilités propres. Nul ne peut payer pour la faute d'un autre. Nul n'est responsable de la faute d'un autre. Si je m'associe à une faute ancestrale, donc si je m'inscris dans une tradition de la faute, alors oui, je vais aussi ça va prendre un caractère beaucoup plus. La faute va prendre un caractère qui me dépasse parce que je m'intègre, je m'associe à une faute ancestrale. Alors là, oui, il y a une valeur ajoutée à ma faute du fait que je me greffe à une histoire, mais cette histoire parce que je l'assume. Parce que le fait de continuer une faute ancestrale, c'est un choix de ma part de faire partie de cette organisation de la faute. Et donc, c'est en quelque sorte justice que d'assumer aussi les conséquences de ce qui s'est fait avant. Mais en dehors de ce cas de figure où une personne continue et perpétue les fautes ancestrales, il n'y a absolument aucune raison et rien qui justifie que plusieurs siècles plus tard, plusieurs générations derrière, eh bien, des enfants aient à payer pour la faute du patriarche. Alors le fait de mettre en avant l'inégalité des périodes d'exil nous fait comprendre que s'il y a un tronc commun, s'il y a un dénominateur commun à toute cette période de 4 siècles, les variantes, les modalités de cet exil, leurs différences, eh bien, il va y avoir aussi dedans une part de responsabilité individuelle qui n'est pas directement liée à Abraham. Je m'explique. Abraham a, encore une fois, à un niveau dont nous sommes tous extrêmement loin, laissé transparaître un instant, un éclair d'hésitation. Donc, un éclair de manquement minime de émouna, de foi en Dieu, et dans sa capacité de faire amener l'histoire là où elle devait arriver. Cette micro-hésitation n'a pas sa place chez celui qui est le père du peuple d'Israël, le premier de nos 3 patriarches, celui qui est véritablement le pilier de la émouna, le pilier de la foi. C'est lui qui a transmis la foi à des milliers de personnes et qui l'a inculqué à sa propre famille. Il est notre pilier, il est notre rocher. D'ailleurs, des fois, la Torah utilise le terme « tzur » qui veut dire le rocher, pour faire allusion au patriarche. C'est notre rocher, c'est notre ancre en termes de émouna. Si lui laisse transparaître la moindre trace, le moindre signe de doute, ça aura forcément une conséquence sur la émouna de tous ses enfants. Et donc, lorsque la émouna n'est pas innée, lorsqu'elle n'est pas naturelle, elle doit s'apprendre, elle doit être acquise. Tout ce qui n'aura pas été inné, tout ce qui aura manqué à Abraham dans sa qualité de père, devra être compensé par ses enfants par un acquis. Il y a l'inné, il y a l'acquis. Ce que nous n'avons pas reçu par hérédité, nous devons forcément l'acquérir de par nous-mêmes. Et si Abraham a eu un micro manquement de émouna, dans notre hérédité, il nous manque un petit quelque chose de émouna qu'il faut compenser. Et alors, il y avait une nécessité d'être en exil. La nécessité d'être en exil, c'est de vivre l'expérience, de se trouver sans défense, de se trouver impuissant, de voir au contraire la toute-puissance de l'Égypte, la toute-puissance humaine, la toute-puissance de ceux qui maîtrisent ce monde d'ici-bas, qui maîtrisent pas seulement le monde d'ici-bas, mais la physique, la métaphysique, la magie, la sorcellerie, c'est-à-dire des gens qui avaient la maîtrise de toute la création de la Kadosh Baruch Hu d'une manière extrême. Extrême. Ce que aujourd'hui nous appelons la sorcellerie peut être appelé tout aussi bien la science, qui reste aussi un excès dans la maîtrise que nous avons des éléments dans laquelle s'exprime encore une fois la toute-puissance de l'homme sur ce monde d'ici-bas. Il fallait que nous sentions peser sur nous cette prison qui est tout simplement qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'autre alternative que la force humaine, que l'intelligence humaine, que les capacités humaines pour pouvoir arriver à un résultat quelconque. Il fallait que nous sentions que, à quel point Dieu semble absent de ce monde, à quel point l'homme semble être à la tenir les rênes de tout ce qui se passe autour de nous, de toute la destinée du monde, pour que, au dernier moment, lorsque se dévoile la sortie d'Égypte, que la démonstration du contraire, eh bien, s'impose à nos yeux, que nous ayons une sorte d'électrochoc qui éclate devant nous et qui nous montre à quel point c'est Akadosh Baruch Hu qui, du début à la fin, se jouait de Pharaon, se jouait de l'histoire et qu'il en avait la maîtrise absolue. Cette expérience qui doit d'abord commencer par une sorte de désespoir de voir autre chose que le joug égyptien et qui se conclut par le retournement de situation d'un tour de bras, d'un tour de Yad Chazaka ou Bizroa Netuya, de mains fortes et de bras étendus, comme nous le disons dans la Haggadah de Pessah, et comme c'est mentionné dans les versets, c'était cette expérience qui allait ancrer définitivement en nous la Emouna. Cet exil ne nécessitait pas forcément l'asservissement et les persécutions. Les persécutions sont une variante de cet exil qui est le produit de mauvais choix. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël s'est installé en Égypte, après l'âge d'or, ils se sont assimilés à l'Égypte. L'idolâtrie est redevenue monnaie courante parmi les enfants de Jacob. Comme le dit brillamment le Rambam Maïmonide, dont c'est la Hiloula, justement, il le dit dans le début des lois de la Avodah Zara, les lois de l'idolâtrie, nous dit que lorsque nous étions en Égypte, eh bien, tous les enseignements d'Abraham étaient sur le point d'être oubliés par le peuple d'Israël. Nous avions fait machine arrière, nous revenions à l'idolâtrie et au paganisme. Et nous avions même abandonné la Brit Mila, l'alliance dans notre chair. La Brit Mila, la circoncision avait été abandonnée en Égypte. Et alors, l'asservissement et la souffrance devenaient à ce moment-là un châtiment individuel, pas un châtiment qui est le châtiment du Père, le châtiment d'Abraham. C'est sûr que le contexte a été l'épreuve que n'auront pas surmonté les enfants d'Israël. Mais d'ailleurs, pas tous. La tribu de Lévi, qui a conservé l'étude de la Torah et qui a conservé Ubritecha Yentzoru, ils ont gardé l'alliance, dit le verset dans la paracha de Vezot Abracha. Et de quelle alliance il est question? Ils ont continué de pratiquer la circoncision. Eux, nous le savons, n'ont pas été asservis. La tribu de Lévi n'a pas été soumise à l'esclavage. Ils ont été considérés comme le clergé, comme des prêtres, comme des privilégiés. Qui a été asservi et qui a été persécuté? Alors nous étions tous dans une ambiance de terreur, nous étions tous sous un dôme de plomb qui était l'ambiance égyptienne. Mais ça, c'était ce qui était nécessaire pour rééduquer notre Emouna. C'est pas ça les persécutions. Les persécutions, elles, sont le fruit des mauvais choix, des choix individuels. Ceux qui n'ont pas fait ces mauvais choix n'ont pas été asservis. La tribu de Lévi a conservé l'étude de la Torah, la transmission des valeurs d'Abraham, n'ont pas sombré dans l'idolâtrie et n'ont pas non plus été asservis par l'esclavage. Les autres tribus qui se sont laissées séduire par les attraits de l'Égypte ou qui se sont soumis à la fatalité de l'Égypte, eh bien, en ont subi des conséquences de manière tout à fait différente. Et donc, je vous demande juste de faire la part des choses entre ce qui est prédit et ce qui est arrivé. Ce qui était prédit, c'était une cure de désintox, une cure de rééducation à la Emouna que nous devions vivre en Égypte. Après, Il y en a qui, pendant la cure, eh bien, font des écarts qui obligent, eh bien, d'avoir des sanctions. Mais c'est tout à fait indépendant de ce qui a été prédit au départ. Il n'a pas été prédit au départ que les enfants d'Israël fauteraient, il n'a pas été prédit au départ que les enfants d'Israël seraient châtiés, que les enfants d'Israël seraient persécutés, que les enfants d'Israël seraient ainsi broyés. Akadosh Baruch Hu ne commet pas d'injustice. Mais c'est cette ambiance qui a été favorable à un éloignement qui a été à l'origine de ces souffrances et ces persécutions. Voici juste voilà, quelques mots vraiment de manière très générale pour un petit peu mieux comprendre ce volet essentiel de l'histoire des Béné Israël et un petit peu éclairer les grandes questions qui se posent et qui s'imposent dans ces grands moments. À bientôt.